Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Aujourd'hui, une histoire criminelle assez originale. Dans le milieu du grand banditisme, chez les Bracos. L'enquête sur la disparition en 2003 de Thierry Samant, un gardien d'immeuble du 13e arrondissement de Paris. Au début, vous verrez, on peut croire que c'est un crime passionnel. On aimerait bien d'ailleurs. Mais à la fin, on découvre que Thierry a été assassiné parce qu'il bavassait chez les flics. Parce que c'était une balance. Je ne vous en dis pas plus. Pour le débrief tout à l'heure, je serai avec Maître Sophie Sarr, du barreau de Paris. Bonjour Maître.
Bonjour.
Dans cette affaire, vous avez été l'avocate de la famille, de la mère de Thierry Samant. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Oudoir. Réalisation Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Le 15 janvier 2003, Thierry Samant, gardien d'immeuble dans une cité du 13e arrondissement de Paris, disparaît. Sa femme Brigitte attend un jour, deux jours, et le 17 janvier, elle va signaler sa disparition au commissariat du 13e.
Je n'ai pas de nouvelles de lui depuis le 15, à 18h30. Autre chose que vous pourriez nous dire, madame? Ah oui, une chose. Il a deux voitures, Thierry. Il y en a une, la 306, qui est garée, mais pas à sa place habituelle. Et puis il en avait une autre, une 106 rouge. Bah, elle a disparu.
Sur le papier, un homme qui disparaît avec ses deux voitures, c'est un type qui s'est fait la malle. Un type qui a voulu changer de vie. Et donc les flics laissent passer encore trois jours. Et finalement, le 20 janvier 2003, ils ouvrent une enquête pour disparition inquiétante. Et dans ce cadre, ils vont perquisitionner sa loge de concierge, place Swam. Et là, il se passe un truc étonnant. Sa femme, Brigitte, spontanément, leur tend un pistolet, un 6.35 chargé.
Bah oui, mon mari avait une arme. Il se sentait menacé.
Ah bon? Et pourquoi se sentait-il menacé? Et là, elle fait... Pff, elle prétend qu'elle n'en sait rien. Et les flics se disent, elle ment. Elle nous cache quelque chose. Et du coup, tiens, est-ce qu'elle n'y serait pas pour quelque chose, elle, dans la disparition de son mari? C'est la piste qui s'ouvre comme une évidence dans ce début d'enquête. Sa femme. Piste qui se précise quand les policiers vont voir l'ex-femme de Thierry Samant, Agnès, avec laquelle il a eu un fils.
Quand est-ce que vous avez eu des nouvelles de lui la dernière fois?
Où je dirais, il y a deux semaines.
Il vous a dit quelque chose de particulier?
Non. Non, mais pour être franc, il paraissait inquiet.
Inquiet de quoi?
Bah, je sais pas, mais... Moi, je pense que c'est sa femme, Brigitte. Je pense qu'elle n'est pas étrangère à ce qui lui arrive.
Et qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Bah, c'est pas quelqu'un de bien, hein, cette femme. Une fois, elle l'a roué à coups de talon aiguille. Et il a fallu qu'il se fasse des points de suture.
Vous voyez, je vous l'avais dit, on y revient, sa femme, Brigitte. Et donc les policiers se rencardent sur ce couple. Ils ont une petite fille ensemble, et Brigitte a deux filles de son côté, dont Thierry paraît-il d'ailleurs s'occupait très bien, comme si c'était les siennes. Les gens disent qu'ils se disputent, souvent. Sauf que Thierry n'a pas vraiment le profil d'un homme battu, comme a pu le laisser entendre son ex. Il a été champion d'Europe de kickboxing, la boxe américaine. Il fait 1m91, le gonze. Une masse de muscles. Pas le genre de type à se laisser attaquer par sa femme à coups de talon aiguille. Son ex Agnès leur a raconté n'importe quoi. Mais au moins, maintenant, les policiers sont au parfum. L'ex de Thierry Samant et Brigitte, sa femme actuelle, se détestent. Et depuis longtemps, vous allez voir. Les policiers apprennent qu'il y a 5 ans, en mars 1998, Brigitte a été victime d'une tentative de meurtre dans le parking souterrain d'un centre commercial dans le 13e arrondissement. Elle est dans sa voiture. Un homme déboule.
Le sac! Donne-moi ton sac!
Dans les procès-verbaux de l'époque, Brigitte raconte qu'elle sent le canon d'une arme sur sa joue. Et l'homme lui tire dessus, à bout touchant. La balle traverse sa joue, traverse son palais, fait exploser une de ses prothèses dentaires, et ressort. Un miracle. Et le gars s'enfuit. Et à l'époque, les policiers interrogent Brigitte à l'hôpital.
Vous l'avez vu, cet homme, madame ? Non, pas bien. Mais la seule chose que je peux dire, c'est qu'il avait un bonnet.
Tu parles d'une description ? On trouve un gant à une dizaine de mètres de la voiture. Malheureusement, en 1998, l'exploitation de l'ADN est balbutiante, on ne parvient pas à dégager d'empreintes génétiques. Mais quand on demande à Brigitte, à votre avis, madame, qui a voulu vous tuer ? Vous savez ce qu'elle répond ?
Oh ben, j'ai bien ma petite idée, hein. C'est Agnès, l'ex de mon mari.
Je vous le disais, les deux femmes de Thierry Samant se détestent. Mais à l'époque, ça n'est pas la piste que les policiers privilégient. Ça va vous intéresser. À l'époque, ils pensent que c'est Thierry Samant qui a voulu tuer sa femme. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il a un casier judiciaire, ce Thierry Samant. Pour vol avec violence et trafic de stupéfiants. Alors cette tentative de meurtre sera classée sans suite. Mais retenez ça. Thierry Samant, le disparu. C'est pas un tendre. C'est un marlou. Mais il y a encore mieux que ça. Non seulement Thierry Samant a un casier, mais c'est un indique. Un indique de la police judiciaire. Un tonton, comme disent les flics. Ou une balance, comme disent les truands. Et ça, les flics qui travaillent sur sa disparition le découvrent à l'examen de ses relevés téléphoniques. D'abord, l'un de ses meilleurs amis, qu'il appelle tout le temps, est un flic, qui s'appelle Daniel. Ils se sont connus par la boxe, paraît-il. Mais il n'y a pas que lui. Samant a aussi des contacts réguliers avec un commandant de la police judiciaire de Versailles, un officier spécialisé dans le grand banditisme. Les flics qui travaillent sur la disparition de Samant vont le voir tout de suite, ce commandant. Il l'a vu la veille de sa disparition.
Ah oui, 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 je l'ai vu. Comme je le voyais régulièrement. C'est un gars qui nous livrait des informations, des indices, des éléments sur des affaires que nous suivions.
Un indique, une balance. Et ça, ça change tout. Ça nous éloigne des disputes avec sa femme et des chicayas à coups de talons aiguilles. Et si la disparition de Samant était liée au fait qu'il est une balance ? Toujours en examinant son relevé de téléphone, on s'aperçoit que Samant échange des appels avec une cabine téléphonique de Montargis, dans le Loiret. Et là, chez les flics, ça fait-il tout de suite. Montargis. L'année dernière, en 2002, une équipe de braqueurs a utilisé une ferme de Montargis comme base de repli. Ils y planquaient des voitures qui avaient servi au braquage de fourgons blindés en région parisienne. La planque a été découverte et une partie des braqueurs arrêtée. Par qui, d'après vous ? Eh bien par le commandant dont Samant était l'indique. Ça paraît clair ? Samant était au courant du braquage, il a balancé ses copains au commandant. Est-ce que c'est pas là l'explication de sa disparition, plutôt que dans les jalousies qu'entretiennent sa femme et son ex ? Les policiers en sont convaincus, c'est dans le monde du grand banditisme que se trouve l'explication de la disparition de Thierry Samant. Ils en sont convaincus. Mais ils n'ont pas la queue d'une piste. C'est une autre affaire qui va réveiller le dossier. Une fusillade devant une boîte de nuit, quai d'Austerlitz à Paris, dans le 13e, l'Atlantis. Une fusillade qui a lieu en août 2002, c'est-à-dire 6 mois avant la disparition de Thierry Samant. Ce soir-là, on tire 19 balles de Kalachnikov sur l'entrée de la boîte. Le vigile prend une balle dans la jambe, un client est blessé, et dans la boîte, un autre vigile fait une crise cardiaque et il en meurt. Les policiers en charge de cette enquête interrogent le vigile blessé. Il a reconnu les types qui ont tiré.
Ah bah oui, je les connais. Je les ai refoulés le soir même. Je les ai pas laissés entrer en début de soirée. Ils sont venus se venger, quoi.
Un trio est identifié, dont un certain Eric Steger. Les policiers débarquent chez lui à Saint-Maur. Ils trouvent des munitions et des postiches. Et ils cuisinent sa femme.
Il a pas une plante, ton chéri?
Ben ouais.
Ouais, il loue un box rue Le Thor dans le 18e.
Les flics y vont. Dans le box, ils trouvent des armes automatiques, des fausses plaques d'immatriculation, des cagoules, une mallette de lance-roquettes vide, un faux permis de conduire et cerise sur le gâteau, 34 kilos de résine de cannabis. Le type est un braqueur et un dealer. Mais surtout dans ce box, ils trouvent une voiture, une Audi S3. Et pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Oh, vous allez comprendre, mais soyez patient. Dans la voiture, les policiers de la scientifique relèvent des taches de sang sur la poignée du siège passager et sur l'un des dossiers. Du sang humain, un ADN de sexe masculin, mais malheureusement inconnu au fichier national des empreintes génétiques. Et là, 2 années passent. Et 2 ans plus tard, un indicateur vient raconter aux policiers du 36 quai des Orfèvres que ce sang serait celui de Thierry Samant, disparu depuis maintenant 3 ans. Comment vérifier? On n'a pas l'ADN de Samant. Mais il a une mère, Samant. Et il a un fils. Et donc on va prélever leur ADN. Et comme les membres d'une même famille ont un ADN en commun, on compare avec la tache de sang. Et c'est bien le sang de Thierry Samant, qu'on a retrouvé dans la voiture d'Eric Steger. Est-ce que ça veut dire qu'il a été tué dans cette voiture? Non. La tache de sang n'a pas la forme d'une projection. On ne peut même pas conclure avec certitude qu'il est mort. Mais après 3 ans à piétiner, on a enfin des nouvelles de Thierry Samant. Et c'est en tirant ce fil qu'on va trouver ceux qui lui ont fait du mal. Et pour résoudre cette affaire de balance, que font les flics d'après vous? Eh bien, ils sollicitent une autre balance. Un autre de leurs tontons, qui en juin 2005 vient leur raconter qu'effectivement, ça se dit dans le milieu, que Samant a été liquidé. Et qui leur donne 4 noms. Le premier, vous le connaissez, c'est Eric Steger, l'homme à l'Audi S3. Les 3 autres s'appellent Eddie Gariani, Thierry Romero et Louis Guillot. Tous sont fichés au grand banditisme. Ils l'auraient dézingué parce qu'il balançait aux flics. Et c'est vrai qu'il balançait. Le copain flic Daniel a fait la liste des tuyaux que Samant lui a donnés. Exemple, un braquage fin décembre 2000, porte de Gentilly à Paris. Un commando de 12 hommes qui attaque à la Kalachnikov, un fourgon blindé, et qui s'enfuit avec 10 sacs de bifton, 6 millions d'euros. 4 braqueurs sont arrêtés dès le lendemain dans un pavillon de Paris Vieille Poste, en Essonne. C'est Samant qui les a balancés aux flics. Idem pour le braquage d'une société de dépôt de fonds, boulevard Ney, à Paris. Un butin d'1,7 million. Samant a balancé 3 noms. Idem pour le braquage d'Herminville en mai 2002. Un fourgon attaqué à l'explosif. Samant donne plusieurs noms aux flics, dont celui d'Alain Elgouarche, une figure du milieu, qui se fera d'ailleurs dessouder quelques mois plus tard. Les autres ont cru que c'était lui, la balance. Et c'est pas tout. Thierry Samant était décidément un grand bavard quand le braco Christophe Kider essaye de s'évader en hélico de la prison de Fresnes. Samant, encore lui, balance 3 noms aux flics, dont celui de l'un de ses frères. Et c'est aussi lui qui révèle aux policiers qu'un autre braco célèbre, Antonio Ferrara, est sur le point de s'évader de la prison de la Santé. Et on trouve des explosifs dans la cuvette de ses chiottes. Le tuyau de Samant était bon. comment Saman savait-il tout ça? Lui qui n'était que gardien d'immeuble. Eh bien, il savait tout ça parce qu'il était le logisticien de tous ces braquages, figurez-vous. Il ne participait pas directement au hold-up, mais il fournissait des caches. Il fournissait des parkings pour planquer des voitures, des caches pour les armes. Parfois, il jouait au chauffeur de taxi, il allait récupérer les types qui venaient de commettre un braquage. C'est comme ça qu'il savait tout sur ce qui se tramait dans le milieu à Paris. Alors, pourquoi est-ce que ça m'en balançait à propos? Daniel, le copain flic, a sa petite idée.
Oh, il y avait un côté très moral chez lui. Il faisait ça pour se faire pardonner son passé de voyou. Il se rattrapait, en quelque sorte.
C'est ça. Prenez-moi pour un jambon. Il faisait ça parce que les flics arrondissaient ses fins de mois. Une petite liasse par-ci, une petite liasse par-là. C'est ça, la vérité. Donc, maintenant, les policiers qui enquêtent sur la disparition de Saman ont quatre noms. Steger, Romero, Gariani et Guillot. Sacré quartet, au passage. Steger s'appelle Rico, pour les intimes. C'est un fan de Tony Montana dans le film Scarface. Et comme lui, il porte des costumes à rayures. Le genre de type capable de torturer avec une perceuse électrique. Guillot, on l'appelle Loulou la Carpe. Il a plus de 70 berges et déjà un joli palmarès. Il a purgé une peine de 20 ans de cabane pour l'enlèvement du petit Christophe Mérieux dans les années 70, à Lyon. Romero est un enfant d'une cité du 13e arrondissement de Paris. Et Gariani, dit Eddy du 13e, a grandi place Swam, juste en face de la loge de Saman. Et donc en avril 2006, ils sont arrêtés dans l'enquête sur la disparition de Saman. Et chez Gariani, on trouve les clés d'un appartement à Boulogne-Billancourt, où il planque toute une panoplie de bracos, des revolvers, des kalachnikovs, des postiches, des gyrophares et même des fausses cartes de police.
Eddy, tu le connais toi Thierry Saman? Je le connais. Ouais, je vois qui c'est, mais bon, j'ai pas de nouvelles de lui depuis un bout de temps, hein.
Éric Steger, lui, est arrêté au volant d'une Porsche Cayenne à Levallois-Perret. Il porte une montre Cartier au poignet et il a 18 000 balles dans la poche.
Dis-moi, Rico, Thierry Saman, ça te dit quelque chose? Ah non? Non, je connais pas.
Connais pas, peut-être. Sauf que je vous rappelle qu'on a trouvé le sang de Saman dans l'Audi qu'il planquait dans son box. Et que son ex finit par balancer aux flics que le soir de la disparition de Saman. Steger est rentré, sale comme un peigne.
Ah ben oui, il est rentré, il a jeté ses vêtements à la poubelle. Ses affaires étaient toutes tachées de terre. Il m'a expliqué qu'il avait travaillé dans une grotte.
Une grotte? Tiens, tiens. Il se trouve que le père de ce Steger est un passionné de spéléo, qui a exploré une bonne partie de sa vie, une carrière dans l'Oise. Et si c'était là qu'ils avaient planqué le cadavre de Saman? En août 2006, le juge ordonne qu'on fouille la carrière, 600 kilomètres de galeries. On ne trouve rien. Et c'est l'arrestation du troisième zozo, Louis Guillot, dit Loulou la Carpe, qui va faire éclater la vérité. Car à l'époque, en 2003, quand Saman disparaît, Loulou la Carpe est sur écoute. Et on a gardé la bande magnétique. Et voilà ce qu'on entend dans la bouche d'une petite frappe qui appelle Loulou la Carpe.
Ouais, salut Loulou. Dis donc, la grande salope là qu'on devait niquer, elle a disparu. On la retrouve plus. Bon, dès qu'on la retrouve, on t'appelle, hein. Je t'embrasse, je te rappelle demain.
La grande salope qu'on devait niquer. Est-ce que ça serait pas Thierry Saman? D'autant que la carpe reçoit un autre coup de fil, le jour même de la disparition de Saman, à 14h05. Et c'est Eddy Gariani qui l'appelle.
Salut! Comment ça va, toi? Bon, ça va très bien. Bon, bah comme prévu, à tout à l'heure.
Ce soir-là, Saman disparaît. Alors qu'a-t-il à dire quand on l'arrête, des années après, ce Loulou la Carpe? Eh ben, au début, rien. Hein, son surnom n'est pas Loulou la Carpe par hasard. C'est un taiseux. En 70, après l'enlèvement du petit Christophe Mérieux, il n'a jamais balancé ses complices. Jamais. Il est tombé seul. Il a été jugé seul. Et donc, quand on l'interroge sur la disparition de Saman, au début, il est muet. Comme une carpe. Mais au bout de 4 jours de garde à vue, pour la première fois de sa carrière, Loulou la Carpe se met à table, figurez-vous, vers 1h du matin. C'est lui qui a donné rendez-vous à Saman ce soir-là, à 20h, sur une aire de l'autoroute A1. Saman comprend vite que c'est un traquenard. Il tente de s'échapper. Saman est touché. Il tombe, et d'après ce que dit Loulou la Carpe, Eddy Gariani arrive près de lui, et il l'achève.
Et après, on l'a remis dans la voiture, quoi. On l'a amené à la carrière, et on l'a brûlé.
Eh bien voilà, 5 ans après la disparition de Saman, on a enfin l'explication. Et Loulou la Carpe emmène les flics dans la carrière. Et on retrouve effectivement une voiture brûlée. Mais pas de cadavre à l'intérieur. Loulou les a baladés. Ça n'est pas la bonne voiture. Mais la voiture, on finit par la retrouver plus profondément enfoncée dans la carrière, grâce aux spéléos qui connaissent la carrière par cœur. Et dedans, des ossements calcinés. 6 ans après sa mort, on a enfin retrouvé Thierry Saman. Les restes de Saman sont soumis à un médecin légiste. Dans le crâne, il identifie un trou. Et tout autour des particules de métal, Saman a bien été exécuté. Mais par qui? Loulou la Carpe a désigné Eddy Gariani. Mais est-ce qu'il ne s'est pas donné le bon rôle, le Loulou? Eh bien, on ne saura jamais. Parce qu'à un moment, le juge veut le réinterroger. Loulou la Carpe se tire une balle dans la bouche. Il se suicide. Il avait peur de passer le reste de sa vie en tôle. À 78 ans, il a préféré en finir. On ne peut donc plus compter sur lui pour connaître l'histoire vraie du meurtre de Thierry Saman. À la fin de l'enquête, il n'en reste donc que 3. Steger, Gariani et Romero, qui auraient eu un rôle secondaire et que d'ailleurs le juge laisse sortir de prison en attendant le procès. Interrogé, Steger prétend qu'il était au cinéma ce soir-là.
Ah mais je peux le prouver, hein. J'ai acheté des tickets de cinéma avec la carte bancaire de ma mère.
C'est vrai. On trouve la trace des tickets de cinéma sur le relevé bancaire, sauf que la veille, avec la même carte bancaire, il a acheté du Zibo Cristal, qui est un carburant pour l'échauffage d'appoint. Il en a acheté 40 litres, et aussi des masques et des combinaisons en papier. Bref, tout le matériel pour mettre le feu à la voiture et faire disparaître sa mort. Le procès de Steger, Gariani et Romero est programmé pour le 6 janvier 2014. 11 ans après la disparition de Thierry Saman. Et l'enjeu de ce procès est très lourd. Ce dont on parle, c'est un assassinat. Steger et Gariani risquent donc la perpétuité. À l'ouverture du procès, ils apparaissent dans le box avec des lunettes de bon élève. Et bien entendu, Il charge le mort. Loulou la carpe. Ah, c'est toujours commode un mort. Ça a le dos large. Pendant plusieurs jours, les policiers défilent à la barre pour raconter leur longue enquête. Et à la fin, l'avocat général présente l'addition.
Contre Eric Steger, je requiers 25 ans de réclusion criminelle. Et contre Monsieur Gariani, 20 ans. Ils sont les co-auteurs de l'assassinat de Thierry Samant. En revanche, je vous demande d'acquitter Monsieur Romero, faute de preuves, même si j'ai comme vous l'intime conviction qu'il était de la partie. Mais reconnaissons que nous manquons d'éléments pour l'incriminer.
Les avocats qui défendent Steger et Gariani plaident l'acquittement faute de preuves. Les deux accusés eux-mêmes redisent qu'ils sont innocents. Mais le verdict est implacable. Eric Steger est condamné à 19 ans pour assassinat et Eddie Gariani à 17 ans. Et Thierry Romero, comme l'avait demandé l'avocat général, est acquitté. À l'annonce du verdict, Steger et Gariani hurlent au loup. On vient de condamner des innocents. Mais ils avaient la possibilité de faire appel. Ils n'en font rien. Leur condamnation est donc définitive. Une histoire très originale que nous allons débriefer maintenant avec Maître Sophie Sarr, qui est avocate au barreau de Paris. Maître Sarr, vous avez défendu dans cette affaire les intérêts de la maman de Thierry Samant. Vous étiez donc partie civile. Au moment du verdict, est-ce que vous et votre cliente avez le moindre doute sur les auteurs de l'assassinat de Thierry Samant? Est-ce qu'on a condamné les bonnes personnes?
Non, je pense que du côté des parties civiles, il n'y avait aucun doute. Ni chez ma cliente, ni chez Agnès, la première femme de Thierry Samant, ni chez Jean-Thierry, son fils. Tout le monde était bien persuadé que les bonnes personnes avaient été envoyées en prison. Du reste, la famille s'est comportée pendant l'ensemble de la procédure avec beaucoup de dignité et de retenue, attendant simplement de pouvoir savoir ce qui s'était passé et surtout de récupérer les restes de leurs proches, puisque le corps s'est trouvé dissimulé, écarté de la famille pendant des années. Il a fallu encore ensuite attendre l'enquête et puis les expertises avant de récupérer les restes calcinés du corps de Thierry Samant.
Il savait, la mère savait, les deux épouses successives savaient que Samant donnait la main à des braquos en région parisienne?
Je crois pas. Je ne crois pas parce que aussi bien Agnès, la première femme, que la seconde, Brigitte, étaient des femmes avec très forte personnalité, très droite, très entière, très jalouse, très possessive. On le comprend en écoutant le résumé que vous avez fait de cette affaire, mais qui étaient des personnes qui, très cadrées, qui tenaient à ce que Thierry Samant soit un père présent, un compagnon attentif, ce qu'il était. D'ailleurs,
ouais. Quant il à avait deux visages.
Ouais, ouais, absolument. Quant à sa maman, c'était une femme qui était une ancienne infirmière, tout à fait modeste, très dévouée pour ses enfants, qui avait déjà perdu un fils nourrisson, mais qui n'aurait certainement pas toléré ce genre de collusion. Et même si son fils avait eu jeune des démêlés avec la justice, il avait quelques affaires à son casier judiciaire. Ce n'étaient pas des grosses affaires, et la page était tournée pour l'ensemble des membres de la famille.
Pourquoi Steger prend 2 ans de plus que Gariani? Est-ce qu'il y a une explication à ça? Puisque selon l'explication de Loulou Lacarpe, c'est quand même Gariani qui achève Thierry Samant d'une balle dans la tête.
Steger prend plus que Gariani parce que, comme vous l'avez rappelé, il a déjà été condamné.
Il est en état de récidive.
L'affaire des vigiles de la boîte de l'Atlantis, qu'il a un casier judiciaire qui est plus conséquent que celui de Gariani. Gariani, quand il arrive, il est quasiment vierge quand il arrive à l'audience, même si on va comprendre au fur et à mesure du déroulé de cette audience assez lourde et assez remplie de tensions, on va comprendre que Gariani, qui était un des amis d'enfance de Samant, était celui qui était un peu responsable de l'avoir introduit probablement au contact des braqueurs que vous avez évoqués, et qu'ainsi c'était Gariani qui avait été un peu mis en demeure aussi de nettoyer ce qui devait être nettoyé et de liquider l'indic.
Il y a un passage qui est très, très étonnant dans cette affaire, c'est le suicide de Loulou Lacarpe. Est-ce que vous, vous avez une explication? Parce que moi, tel que je l'ai compris, il n'a pas le profil du type qui se tire une balle dans la bouche pour ne pas aller en prison. Il y a passé 20 ans en tôle.
Alors, c'est vrai. En même temps, Loulou Lacarpe est une des figures du milieu lyonnais. C'est quelqu'un qu'on respectait énormément dans le milieu. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait appel à lui pour inviter Thierry Samant à tomber dans le nid de guêpe qui va lui être fatal. C'est que Loulou Lacarpe a une réputation et on sait qu'il est fiable. À partir du moment où il va convier Thierry Samant à une explication, quelque chose, Thierry Samant, au début, ne va pas se méfier. Et Loulou Lacarpe, qui a passé, comme vous l'avez rappelé, un certain nombre d'années en prison, est quelqu'un qui a passé, en fait, une trentaine d'années en prison
au total,
au long de son existence, avec une enfance, etc., et puis une adolescence marquée par des difficultés et des démêlés judiciaires.
Il veut pas y retourner, quoi.
Et il est vieux. Ouais. Vous l'avez rappelé, il a 78 ans. Quand le juge d'instruction les convoque pour leur notifier, cette fois-ci, une mise en examen pour un assassinat, probablement, ouais. Eh bien, il décide qu'il ne retournera pas en prison. Mais avant cela, il a des choses à nettoyer, car c'est un homme de parole et qui a une famille. Et notamment, il a une fille qui n'est pas sa fille biologique, mais qui est la fille de sa compagne et pour laquelle il a énormément d'affection, qui est simple d'esprit et qui a un époux violent. Et il se dit, je dois laisser les choses dans un bon état, en fait, avant de retourner en prison.
Donc, il balance les trois autres.
Il va tuer son gendre. Il va tuer son gendre.
Qui bat sa fille.
Pour la petite histoire.
Il se suicide après.
Il se suicide après. C'est le jour de Noël. Il a éloigné sa famille et il a dit, je ne retourne pas en prison. Je règle ce qu'il faut régler avant et je pars serein.
La version de Loulou Lacarpe, selon vous, est la bonne. Ça s'est passé comme il l'a dit.
Évidemment, Loulou Lacarpe se donne le beau rôle. Évidemment, on ne saura jamais exactement ce qui s'est passé. Évidemment aussi, Loulou Lacarpe n'avait strictement aucun intérêt à participer en soi à l'assassinat de Thierry Samant. Pour plein de raisons. D'abord, il n'avait pas été impliqué, il n'a jamais été impliqué dans les procédures et les affaires de braquage que vous avez évoquées. En plus, physiquement, il n'avait pas besoin d'intervenir puisque dans le commando d'exécution de Thierry Samant, il y a deux gars costauds qui sont Eddie Gariani et Steger, qui sont jeunes.
Ils n'ont pas besoin d'un type de 60, et plus de 70 ans.
Qui ont la gâchette facile. Et puis, dans le déroulé de ce qu'il va raconter, il n'y a pas besoin. Évidemment, les deux se sont pas privés tout au long de l'audience de charger Loulou en disant que c'était lui qui avait tué Thierry Samant. Mais évidemment, les morts sont pratiques, comme vous l'avez rappelé.
Il faut qu'on parle de cette enquête qui dure des années et des années. Ça peut surprendre tout de même que la justice française consacre autant d'énergie pour retrouver au fond l'assassin ou les assassins d'un marlou. Ne trouvant pas les assassins dans les premières années, on aurait pu conclure un non-lieu et ne pas dépenser autant d'énergie, au fond, pour trouver les assassins de Thierry Samant.
Je crois qu'en réalité, ça ne s'est pas construit comme ça d'un point de vue historique. Les magistrats, des magistrats d'instruction, sont intervenus successivement dans les différentes procédures que vous avez évoquées. L'affaire de l'Atlantis, le trafic de stupéfiants, puisque le véhicule se trouvait dans un box. La tentative d'assassinat dont a été victime Madame Brigitte Samant. Et puis, incidemment, la disparition de Thierry Samant. Il y a plusieurs points à relever là-dessus. D'abord,
c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs affaires à résoudre en même temps.
Exactement.
Ce qui a motivé, finalement, la totalité de l'enquête.
Et quand vous avez évoqué tout à l'heure le fait que Loulou Lacarpe avait été mis sur écoute à un moment, c'est parce qu'il était dans le cadre d'une affaire de trafic d'armes. Donc en fait, ces gens-là qui passent leur temps à commettre des infractions faisaient l'objet de plusieurs procédures, éventuellement pas au même moment, mais qui se trouvaient imbriqués par la force des choses, puisque les trafics sont imbriqués, avec des générations de truands différentes. Parce que dans la partie stupéfiant, on va se retrouver plutôt avec des jeunes, du trafic plutôt lié à la périphérie de Paris, alors que ça n'est pas nécessairement le cas des autres procédures. Vous avez évoqué l'Oise, vous avez évoqué le 77, donc il y a plusieurs magistrats. Les magistrats recoupent leurs informations quand ils le peuvent. Il faut qu'ils puissent le faire. Donc c'est la raison pour laquelle l'ensemble de ces dossiers a pris pas mal de temps. Puis il y a un autre point qu'il faut souligner. C'est que vous avez dit que les policiers s'étaient montrés très opiniâtres. C'est exact. Mais les policiers qui étaient en charge de l'enlèvement, enfin de la disparition de Thierry Samant, l'ont été. En revanche, les policiers qui travaillaient avec Thierry Samant et qui avaient des informations sur Thierry Samant n'avaient pas nécessairement intérêt à ce que l'on trouve très vite les raisons pour lesquelles Thierry Samant avait disparu et le rôle double qu'il jouait.
Vous voulez dire qu'ils étaient gênés aux entournures?
Voilà.
Pour l'avoir trop utilisé, trop exposé.
De l'avoir trop utilisé, on a vu défiler à l'audience des profils de policiers très différents entre le policier de police judiciaire de Seine-Saint-Denis qui a mené enquête sur la disparition, les policiers de Versailles que vous avez évoqués tout à l'heure, l'entraîneur de boxe qui avait amené Thierry Samant après ses premiers séjours carcéraux à s'adonner à la boxe et puis finalement avoir un titre, avoir une vraie carrière d'athlète.
Champion d'Europe, quand même.
Exactement. Et puis un athlète en effet incroyable qui avait retrouvé une forme de rédemption au travers de la pratique de ce sport. Voilà, donc c'est aussi pour ça que ça a été très difficile. Et c'est vrai qu'il faut saluer là-dessus le travail du magistrat instructeur Xavier Blanc qui s'est retrouvé en charge aussi bien de la disparition de Thierry Samant, mais aussi de la tentative d'assassinat contre Brigitte Samant. Et c'est lui qui finalement permettra qu'on trouve le coupable, parce qu'il pensera à réutiliser les moyens modernes de la police, en l'espèce l'empreinte génétique qui se trouvait dans le gant qui avait été trouvé dans le parc.
Alors c'est ça, j'ai jamais donné dans mon récit la solution qui a voulu assassiner Brigitte Samant.
A été condamné pour cette tentative d'assassinat, Michel Aouzi,
qui est un copain de Thierry
Samant. D'enfance de Thierry Samant, qui a expliqué, alors que Thierry Samant, au moment du procès, avait disparu, et même plus, au moment du procès, on venait de découvrir le cadavre de Thierry Samant. Donc le procès a commencé dans une ambiance très particulière, parce qu'on venait de savoir qu'en effet, il était bien mort, alors qu'il avait été renvoyé en son absence devant la cour d'assises.
Donc c'est Samant qui a voulu tuer sa deuxième femme.
Oui, on pense que Samant, qui était très inquiet, très angoissé, parce qu'il avait beaucoup de pression, qu'il avait peur qu'en fait on le découvre en qualité d'indicateur, a été tenté d'utiliser sa femme comme fusible et de dire que c'était de sa faute. On le pense, mais on ne le sait pas. Et on n'aura jamais exactement la vérité là-dessus. Ce qui est certain, c'est que c'est son ami d'enfance qui a été condamné pour cette tentative et qu'il a indiqué que c'était son ami qu'il l'avait missionné pour ça, qu'il l'avait payé même.
Il y a une question qui est très intéressante. Qu'est-ce qui a amené, d'après vous, Thierry Samant à devenir une balance? Donc il y a le copain flic Daniel dit, il voulait, c'était sa rédemption en quelque sorte, et il voulait se rattraper de son passé. Mais est-ce que c'est vraiment le cas?
Eh bien, Michel Aouzi, qui était son ami d'enfance, a donné cette réponse à la cour d'assises parce qu'on lui a posé la question. Et il a dit, je pense que ce que Thierry voulait faire dans la vie, c'était ripou.
Ouais.
Ce qu'il aurait aimé faire, c'est à la fois être flic au sens où il l'entendait lui, et en même temps profiter du système. Et il aurait aimé être les deux. Et balance, pour lui, c'était un moyen d'être à la fois dans la légalité et dans l'illégalité.
Très
de se ménager l'amitié des voyous et des flics. Ambiance qu'il retrouvait dans les salles de sport dans lesquelles il s'entraînait, où ces deux milieux se côtoient.
Les flics et les
braquos. Exactement.
À quoi ils ressemblent, tous ces braquos qui se retrouvent devant la cour d'assises pour avoir dézingué Samant? Parce qu'on dit toujours que les braquos des années 2000 valent pas ceux des années 80-90, qu'on appelait des beaux mecs, et que les nouveaux braquos sont des brutes épaisses. Est-ce que c'est le cas?
Ce qui est incroyable à cette audience, c'est qu'on voit défiler, en effet, plusieurs générations, aussi bien de voyous que d'épouses de voyous. On voit les vieilles épouses venir dire en filigrane aux jeunes « Attention à vous, parce que nous, on a passé toutes nos vies à aller visiter nos mecs. »
En prison.
En prison, à s'occuper des enfants. Souvent d'anciennes prostituées, pas nécessairement, mais on s'en vit de la rue. Et puis les jeunettes, qui, elles, y croyaient encore et qui avaient les yeux vraiment de chimène pour les garçons qui étaient dans le box. Pour les garçons qui étaient dans le box, on a vu que les jeunes, parce que les vieux étaient morts.
Ouais.
Vous avez évoqué
le suicide de Loulou.
Il y avait un autre mis en cause. Eric Steger, c'est un profil complètement tête brûlée, qu'on aurait très bien imaginé, soit dans les forces spéciales de quelque chose, enfin c'est l'idée qu'il a donnée, soit animateur, beaucoup de faconde, grande pratique sportive, très frimeur aussi.
Mais brut.
Est très brut, très violent. C'est pour ça que dans la couverture, la manière avec laquelle on raconte ce dossier, on parle souvent d'Audiard, etc. Mais la réalité est beaucoup plus sordide que ça.
Oui. Parce qu'en réalité, ce sont des sales types.
Oui, et très violent, parce que laisser comme ça quelqu'un qu'ils ont côtoyé, un corps qui a été dépecé, enfin brûlé, désossé, enterré, et une famille qui a été laissée sans nouvelles pendant des années. En effet, ce sont des gens tout à fait durs. Eddie Gariani a un profil parfaitement différent. Début d'audience avec lunettes, chemise fermée, et puis le naturel est revenu assez vite au galop. On n'a plus vu les lunettes, chemise ouverte, on a pris un peu de l'aisance sur les bancs. Puis on sentait qu'il ne fallait pas poser les questions qui fâchaient, parce que sinon il nous faisait un peu de gros yeux. Bon, Eddie Guerriani était quelqu'un qui, pareil, avec un profil de père attentionné, etc., bon, qui avait une double vie en matière de stup, manifestement, et qui, mais qui était beaucoup plus dans la retenue que Eric Steger. Pas du tout le même profil.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.